L'opération commencera dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
Zabzala.
L'émission
de Pierre de Sang.
Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici.
Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Quelle farce.
Pourquoi ne pas nous mettre chacun dans une cellule jusqu'à ce que nous ayons avoué vous en finiriez une bonne fois pour toutes ?
Musical ou thématique, rendez-vous tous les lundis à 19h
sur Radio Campus 106.6. 106.6.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
C'est ça.
Bonsoir. Fidèles auditeurs, fidèles auditrices. Ce soir, l'émission sans valeur marchande Zabzalap consacre une heure à ce symbole glorieux du capitalisme industriel apparu à Paris à la fin du XIXe siècle, le Grand Magasin. Pour ce faire, l'équipée zabzalapienne, que rien n'arrête, n'a pas hésité à prendre le risque de mélanger les genres, aussi mauvais soient-ils. Nous ouvrirons donc les hostilités par le montage d'un dessin animé aussi connu des chiards aliénés que des parents irresponsables, Totally Spies. Cette série télé d'animation franco-canadienne, qui est un mélange hystérique de Drôle de Dame et de James Bond, nous narre les aventures de Sam, Clover et Alex, trois étudiantes de Beverly Hills qui sont en réalité trois espionnes appartenant à une organisation secrète de protection de l'humanité, la World Office of Human Protection. Dans l'épisode que nous diffusons ce soir, elles ont pour mission d'arrêter un groupe terroriste anti-consommation qui s'est donné pour objectif de détruire tous les grands magasins de la planète. Zabzalap, dans un élan de générosité cinéphilique, n'a pas pu s'empêcher, sous la forme d'un montage d'une vingtaine de minutes, de vous faire partager cet épisode trépidant, l'épisode 24 de la saison 1, comme on dit maintenant, plein d'action et de rebondissements, qui n'est rien d'autre qu'un éloge de la marchandise et de la consommation à destination des jeunes ouailles. Mais, parce que nous ne nous suffiserons pas des Totally Spies pour mieux comprendre ce que sont les grands magasins, ces vitrines de l'ogre capitaliste, ces symboles de la société spectaculaire marchande, nous convoquerons également des historiens et philosophes, sans oublier l'incontournable Émile Zola avec son symptomatique roman Au bonheur des dames. Cela nous montreront combien ce lieu est ambivalent, puisque destiné à l'origine à un public féminin bourgeois, ayant pour but de fasciner, de séduire, de divertir, il a tendance à susciter parmi certains homo sapiens un désir de destruction aussi primaire que revigorant. Nous dédicassons cette émission aux caissiers et aux caissières, aux pilleurs et aux pilleuses, aux voleurs et aux voleuses, ainsi qu'à Tao Tiao, un Chinois qui s'est suicidé au milieu du mois de décembre 2013 en sautant du 7e étage d'un grand magasin, durant les soldes de Noël, alors que sa compagne, après 5 heures de shopping, voulait continuer ses achats. À bon entendeur.
Ça nous
nouveau centre commercial est la plus belle chose qui me soit arrivée depuis l'invention des faux ongles. Oh, j'ai hâte qu'il soit terminé.
Il m'en parle pas, j'en ai des frissons partout, rien que d'y penser. Et vous là-bas, vous pouvez pas accélérer un peu?
T'excite pas, Alex. Beverly Hills ne s'est pas faite en un jour.
En attendant la fin du chantier, on peut se rabattre sur notre bon vieux centre commercial, c'est une valeur sûre.
Troisième étage, gadgets en tout genre, vidéo et briefing opérationnel, tout le monde descend.
Très drôle, Jerry.
J'espère que c'est urgent parce que vous venez d'interrompre un marathon shopping intensif.
Justement, il se trouve que cette mission ne vous dépaysera pas. Il semblerait que quelqu'un ou quelque chose kidnappe la clientèle des boutiques les plus luxueuses de la planète avant d'en détruire tous les points de vente.
Quoi ? Démolir des boutiques et kidnapper les clients ? Je trouve ça... totalement diabolique et criminel.
Ouh, je sais ce que tu ressens. C'est une catastrophe.
Et d'après vous, qui est derrière tout ça?
C'est précisément là que vous intervenez. Vous enquêterez en tant que...
En tant que superbe client très chassé.
Disons plutôt en tant que journaliste d'une émission de mode.
Simple journaliste?
Rectification, superbe journaliste de mode. Cela va sans dire. Vous partez pour le Caire. C'est vraisemblablement là qu'aura lieu la prochaine attaque. Votre mission consistera à localiser les commanditaires...
Ouais, on connaît la chanson. On roule tout Spice, on a un magasin à sauver.
Attendez, vous oubliez vos gadgets.
Ah oui, c'est vrai, c'est le meilleur moment de la mission.
Tube de rouge à lèvres laser à haute densité, sac à dos à jet propulseur, barrette à cheveux multifonction, appareil photo à écran de fumée, le chanteur d'honneur de voix, ouvrez l'ultra compact de découpe laser, et bien sûr l'indispensable cash.
Réveillez-vous, Jerry, on est au 21e siècle, tout le monde a une carte de crédit de nos jours.
Le cash en question, cher Alex, est un corsage automorphe de secours actif. Il peut servir de parachute, de filet ou encore de bouée.
Génial!
Rien n'est trop génial pour vous, les filles. Alors bon voyage et saluez les pyramides de ma part!
Qui c'est celui-là? Il a pas l'air très net.
Il est carrément louche, tu veux dire? Pourquoi il est aussi impassible alors que tous les autres paniquent comme des fous?
On n'a qu'à demander à Jerry ce qu'il en pense.
Bonjour les filles, oh je suis désolé pour ça.
Je vous ai envoyé quelques images prises dans le magasin. On a repéré un type très calme et plutôt bizarre au milieu de la foule.
Oui, en effet, je le vois. Il semble trop calme pour être honnête. Ah, voilà. J'ai votre information. L'homme au nerf d'acier est un certain Simon Tucker. Il possédait en Irlande un petit commerce qui a été racheté par Harrow's, la chaîne de grands magasins de luxe, qui a récemment ouvert un centre commercial à Dublin. Simon Tucker s'est battu pour sauver sa boutique, mais en vain.
Et pour quelle raison voudrait-il kidnapper des gens?
Quelque chose me dit que la réponse nous attend à Dublin.
Votre perspicacité me laisse sans voix. Bonne chance.
Rien du tout. Le nom de Simon Tucker. Parker n'apparaît dans aucun de ces dossiers.
Pareil de mon côté. On est en train de perdre un temps précieux au fond d'une vieille cave dégoûtante. Oh là là, c'est encore plus crasseux par ici, Belle.
Tiens, je viens de trouver les vieux registres de Simon Tucker.
Cette pièce devait faire partie de son ancienne boutique.
Écoute ça. S'ils essaient de s'emparer de mon magasin, ils vont le payer très cher. Ces vampires de capitalistes vont connaître la colère du commando anti-consommation. Bon, il est temps de mettre la main sur Simon Tucker. Ça devrait pas être compliqué après tout.
Attends, hein? Est-ce que t'entends ce que j'entends? Mais qu'est-ce que c'est que ce rassemblement tribal et ce la joie aborigène?
Qu'est-ce que c'est que ce repère de fous?
Et qu'est-ce que c'est que ce patch qu'ils ont sur la tête?
Tu crois qu'ils font du tai-chi?
À l'attaque! Détruisez ce centre commercial!
Consommation! Et c'est bon du tai-chi! Vive la destruction des centres commerciaux!
Dis donc, ça a pas l'air très efficace leur thérapie de groupe.
Regarde là-bas!
Entraînement entièrement consacré au sabotage de magasins.
Quelle horreur, c'est encore pire que dans mes cauchemars.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors c'est ici que sont transportés les grands magasins?
Ils doivent les passer par des tunnels comme celui du Caire.
Ce qui veut dire que Sam doit pas être très loin.
Je pense avoir réussi à perfectionner le patch. Viens avec moi au labo. En plaçant les patchs sur la tempe, on stimule plus rapidement le système nerveux. Ainsi, le sérum de contrôle mental pénètre directement au cœur du cerveau. Et la puissance de notre armée révolutionnaire anti-consommation en sera décuplée. Je crois que Simon Tucker va être content.
Ça se prend pour des révolutionnaires anti-consommation? Non, mais regardez-vous, tas de larves!
Sam?
Si nous voulons propager la révolution, nous ne devons pas perdre de vue notre but. La destruction totale de toutes les grandes surfaces, c'est clair?
Oui, chef!
Quoi? J'ai rien entendu! Plus fort!
Oui, chef! L'ennemi, c'est la grande distribution!
C'est incroyable, ça m'a le cerveau complètement bouilli! Ça vient sûrement du patch qu'elle a sur la tête!
De toute façon, il faut qu'on la sorte de là vite fait! Prête?
Ouais!
Bon, on fonce dans le tas et on prend Sam au filet! Tu me suis?
Nous devons libérer notre chef, vite!
Relâchez-moi tout de suite! Soldats, à vos mouvements!
Ça refait une stratégie!
Attention à tous les révolutionnaires anti-consommation. Les intruses ont été capturées. Elles sont emprisonnées au bloc 1.
Franchement, dans le genre prison, j'aurais pas rêvé mieux.
Ouais, tu l'as dit. J'espère qu'ils font des soldes. Ah, Simon Tucker!
Oh, personne. Profitez bien de vos derniers instants du matérialisme décadent, mademoiselle. Car lorsque mes techniciens auront placé ceci sur vos tempes délicates, je me ferai un plaisir de vous enrôler au sein de mon armée.
Alors
là, je crois que vous prenez vos désirs pour des réalités.
Vous êtes de Beverly Hills, c'est bien ça?
Et fière de l'être, que ça vous plaise ou non.
Je parie que vous adorez faire les boutiques. Ceci devrait vous combler.
Ah, wow, regarde ça, ces chaussures sont à tomber. Et leur prix aussi, d'ailleurs.
Et celle-là, elle gérait trop bien avec ta nouvelle jupe bleue.
Beverly Hills, c'est une malédiction. C'est le dernier temple du capitalisme mercantile. Le pire exemple de dictature matérialiste au monde.
À bas la consommation et ses maudits annettes. Vive la destruction des centres commerciaux.
Excusez-moi, mais on doit pas parler du même Beverly Hills.
Et je vous préviens que votre plan démoniaque n'a aucune chance de réussir. En fait, c'est quoi votre plan démoniaque?
Puisque vous allez bientôt m'aider à l'accomplir, je ne vois aucun inconvénient à vous en livrer les grandes lignes. J'ai pour dessein de libérer le monde de la société de consommation qui le pervertit. C'est là le fléau qui a causé ma ruine personnelle. Moi et le CAC, mon commando anti-consommation, avons prévu la destruction totale de toutes les grandes surfaces du monde, à commencer par votre nouveau centre commercial de Beverly Hills.
Quoi ? Vous n'avez pas le droit de faire ça, espèce de cinglé !
C'est notre centre commercial et on ne laissera personne y toucher. Parole de client privilégié, votre plan tombe à l'eau, Tucker.
Les jets sont prêts à décoller, monsieur. Les troupes sont armées et sur le pied de guerre.
Sam, mais qu'est-ce qui te prend à la fin? C'est de Beverly Hills qu'il s'agit. Notre Beverly Hills.
Ah bah, la consommation
et ses maudites annettes. Vive la destruction des centres commerciaux.
Dommage que vous ne veniez pas avec nous détruire votre centre commercial préféré. Ouais. Mais rassurez-vous, il y en aura beaucoup d'autres. Il est temps d'aller assister à la cérémonie d'inauguration. Ou plutôt, devrais-je dire, de démolition.
Là, en bas, pose-toi dans la fontaine.
rampe, c'est tout.
T'as pas envie de te rafraîchir un peu les idées, Sam?
Ne me touchez pas!
Désolée.
Ah, ça alors? Je me sens toute bizarre, hein? Un peu comme si on m'avait lavé le cerveau.
Ouais, à grande eau. Mais c'est pas le moment de papoter.
Attends, la mémoire me revient. Nous devons sauver le centre commercial si mon Tucker a prévu de le faire sauter.
Tu croyais peut-être qu'on était venu pour faire les courses?
Le voilà. La seule façon d'arrêter Simon avant qu'il ne soit trop tard serait de dépatcher son armée.
Il faudrait de l'eau pour décoller ces trucs. Ça a marché pour le tien.
Très bonne idée. J'ai un plan. Suivez-moi.
Soldats, l'heure est venue de passer à la phase finale de notre opération. Approchez-vous et écoutez attentivement les instructions.
Vas-y.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vous!
Arrachez vos patchs! C'est un ordre! Si mon Tucker est un être malfaisant, il n'a pas le droit de s'en prendre à des innocents et de détruire nos centres commerciaux. Arrêtons-le!
Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis invincible. Grâce à ma nouvelle armée révolutionnaire.
Tu en as encore pour longtemps?
J'y suis presque.
Non, c'est impossible. Mon plan était infaillible. J'avais tout prévu.
Félicitations, les filles. Vous venez de sauver la société de consommation et ses plus fervents adeptes.
J'en finirai, j'en finirai.
près devant. Un jour, c'est sûr, je leur montrerai les pieds devant. Je partirai, mais après là, mes esprits uniques. Dans ma caisse, ma bonne direction, j'encaisse pas. C'est passionnant, et ce serait chic de serrer la main aux vieilles piques. Dans ma belle caisse, j'y reviendrai. C'est passionnant, rendez-moi la monnaie. Devant ma caisse, fini de payer. C'est moi le fantôme de supermarché. C'est passionnant, c'est passionnant. C'est passionnant, vraiment c'est passionnant. Vraiment c'est passionnant. Non, 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 non.
Paris, 1852. Aristide Boussicot ouvre le Bon Marché, inventant le premier grand magasin au monde. Toutes les femmes accourent, se pressent pour découvrir ce lieu d'abondance et de beauté à nul autre pareil. Attirées par ce nouveau paradis, ces bourgeoises quittent leur foyer et sortent seules de chez elles. L'apparition du grand magasin est un tel choc que l'écrivain Émile Zola, témoin attentif de son temps, lui consacrera un roman, Au bonheur des dames.
N'était-ce pas une création étonnante? Le grand magasin bouleversait le marché. Il transformait Paris, car il était fait de la chair et du sang de la femme.
Une révolution est en marche. En créant le Bon Marché, Aristide Boussicot invente une véritable machine de l'aliénation et du progrès. Il jette les bases du commerce moderne et de la société de consommation dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui.
Avant l'âge industriel, les gens possédaient très peu de choses. Quelques vêtements, peut-être un petit tabouret en bois, de la literie, une casserole. Il n'y avait pas grand-chose à acquérir. Et posséder des biens constituait plutôt une gêne.
Mais la révolution industrielle en marche suscite l'émergence d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, qui ne demande qu'à dépenser. Et le commerce est en train de changer. Pour la première fois, plusieurs boutiques sont réunies dans un même espace, les passages couverts.
Le shopping est né avec les passages couverts. Ils attiraient les gens à l'écart de la rue et constituaient un havre de paix dont le monde extérieur était exclu. Ils formaient un petit labyrinthe à travers Paris. Ils étaient sûrs, on n'allait pas y être la proie des pickpockets, ni y être éclaboussé de boue. C'était une sorte de cocon où on pouvait marcher lentement, flâner de boutique en boutique.
L'apparition des magasins dits de nouveauté marque une nouvelle étape dans cette évolution. Au phare de la Bastille, à la place Clichy, à la ville de Saint-Denis, ces enseignes à comptoirs multiples sont les premières à proposer une diversité de marchandises. On peut y acheter à la fois ses gants, sa robe et ses draps.
J'ai l'ambition de créer un commerce d'un genre nouveau, comme jamais Paris ne l'a connu. Imaginez un espace immense, superbement éclairé, avec une profusion de marchandises venues du monde entier. Ce sera une expérience unique et une explosion de tous les sens.
Mon cher ami poète. Mais dites-moi, où trouverez-vous la clientèle pour remplir une telle cathédrale?
La clientèle, la voilà.
Dans son magasin, Boussicot attire déjà une clientèle féminine. Mais son rêve est de faire venir toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions sociales ou leurs besoins.
Thank you.
bonheur des dames.
C'est un vrai palais.
C'est là qu'il habite, l'empereur.
On n'aurait jamais pensé qu'il puisse y avoir des magasins aussi grands. Et on vend tout.
Même des tambours.
Oh, regarde.
C'est merveilleux.
Oui, les vendeuses sont rudement jolies. On doit les choisir.
Oui, esprit pour toi.
Le long de ce développement de casernes, lorsque les petits commerçants levaient la tête, ils apercevaient l'amoncellement des marchandises. Par les glaces qui du rez-de-chaussée au second étage couvraient la maison au plein jour. Et ce cube énorme, ce colossal bazar, leur bouchait le ciel, leur paraissait être pour quelque chose dans le froid dont ils grelottaient au fond de leur comptoir glacé. Partout, on avait gagné de l'espace, l'air et la lumière entraient librement. C'était la cathédrale du commerce moderne, solide et légère, faite pour un peuple de clientes. Ils professaient que la femme est sans force quand on la réclame, qu'elle finit, fatalement, par aller au bruit.
Pour aliments et leur fraîcheur,
pour tapisser vos plats et éviter la corde de vaisselle,
utilisez la feuille d'aluminium ménager.
Les grands magasins, c'est épatant, on peut dire maintenant que le vrai Paris. Ça n'est plus le boulevard, mais le printemps, la Samar, le Louvre et les galeries. Dans les magasins, il y a des pantins, des robes en satin. Dans les magasins, on trouve du fusain et du rouge raisin.
De la
mercerie,
de la gagnetterie, de la papeterie, de la parfumerie, des paniers joujoux vrais, on y vend de tout.
Ne sommes-nous pas conviés à nous interroger sur ce qui nous est offert, donné à voir, que ce soit pour notre joie ou bonheur, s'il peut y avoir du bonheur, à se distraire, à en mourir dans un parc d'attractions, une salle de jeu, un temple de la consommation. Alors, Marc Berdet, bon, précisons d'emblée que vous, et ce n'est pas pour rien que votre livre s'appelle Fantasmagorie du capital, bon, il est centré sur cette notion de fantasmagorie dont on va rappeler peut-être la définition pour essayer de bien comprendre le cheminement qui vous amène quand même à cette notion d'espace public. Fantasmagorie au sens de Walter Benjamin, c'est...
Oui, alors ben justement, la fantasmagorie, les fantasmagories, ce sont des apparitions fantomatiques pour un public rassemblé dans un espace clos. En tout cas, c'est comme ça que l'entend Benjamin. Et Benjamin désigne ces espaces clos qui sont chargés d'une certaine magie. Par exemple, le passage des panoramas qui s'ouvre sur le boulevard Bonne Nouvelle et qui ressemble un peu à une grotte féerique, un peu inquiétante, illuminée. mais les fantasmagories du capital, plus précisément, et là, ça c'est ce que je fais dans mon livre sur les pas de Walter Benjamin, ce sont les espaces clos chargés d'une certaine magie dans lesquels le capitalisme expose ses marchandises. Et là, ce sont plutôt les passages au milieu du 19e siècle, donc pendant leur heure de gloire, qui préfigurent ensuite les grands magasins, comme le Bon Marché, dont on vient d'entendre un extrait, ou plus tard, et plus près de nous, les galeries marchandes et les centres commerciaux.
Alors, cette notion d'espace public, évidemment, vous la rencontrez, sachant que vous, partant de cet espace clos qu'est la fantasmagorie pour nous mener jusqu'à Disneyland, voire jusqu'à Las Vegas, voire jusqu'aux centres commerciaux américains, et vous n'empruntez pas exactement les mêmes chemins, mais il y a toujours la question du dehors, la question de ce qu'on regarde et comment on le regarde, Marc Berdet.
Oui, la fantasmagorie du capital, c'est ce que je disais, c'est l'apparition fantomatique d'une marchandise pour un public enfermé dans un espace clos. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas un public au sens de Joël. Ce n'est pas un public qui est là pour partager des expériences, pour les confronter. C'est ce qu'on voit d'ailleurs aux premières expositions universelles, à la toute première que j'analyse dans mon livre, au Palais de Cristal, en 1851.
Dûment commenté par Karl Marx.
Voilà, c'est
ça. C'est formidable dans votre livre. C'est très, très intéressant. Il faut se remettre ça en mémoire, oui.
Oui, donc...
Temple de l'industrie.
C'est ça. Et Karl Marx s'attend, avec des auteurs libéraux, à ce que ça soit le triomphe de la rationalité bourgeoise, de la pédagogie bourgeoise. Et d'ailleurs, les organisateurs veulent montrer dans quel processus de production on entre avec le capitalisme industriel, veulent l'exposer aux ouvriers. Mais il y a une vertu pédagogique qui est pensée par la commission royale qui organise l'exposition en 1850, qui consiste à dire on va montrer le processus de production du début à la fin, donc des matières premières en passant par les machines jusqu'au produit fini éventuellement retravaillé par des artisans, de manière à ce que le visiteur, en l'occurrence l'ouvrier, puisse se situer dans ce processus de production et puisse comprendre son expérience. Donc là, il y a quelque chose qui s'amorce, qui pourrait être de l'ordre de l'expérience du public, donc au sens de Joël.
Mais au sens de l'instruction publique.
Presque, au sens de l'instruction,
quasiment.
Alors on est entre l'exploration et l'instruction.
Hein, pardon ?
Plutôt de l'éducation.
L'éducation.
Oui, voilà, on est entre l'exploration, l'instruction, l'éducation. Mais en fait, à partir de 1851, on change de problématique. Et là, il va s'agir seulement de distraction. Donc il s'agit de distraire l'ouvrier, de le planter devant une marchandise qui est complètement déconnectée du circuit de production, puisque les machines sont reléguées dans un coin, les matières premières dans un autre, et finalement ce sont seulement les produits artisanaux travaillés par les arts des différents continents, avec une dimension très orientalisante, ou encore des productions industrielles récentes, mais qui ont un aspect féerique, par exemple avec du verre on fait des fontaines de cristal. Et donc ce sont ces objets-là qui sont plantés au milieu.
Et on efface les prix.
Et on efface les prix. Alors ça, c'est l'étonnement de Marx et des auteurs libéraux, c'est qu'on pense que ça va être effectivement la foire des marchandises du capitalisme où les prix vont être exposés pour qu'on puisse les comparer entre différents pays. Et en fait, c'est là où on accède au niveau fantasmagorique, c'est que ni la valeur d'usage, c'est-à-dire la production, les corps qui ont travaillé à la production des objets, les procédés techniques, ni la valeur d'échange, c'est-à-dire le prix des objets, n'est visible. Il n'y a plus qu'un espèce d'univers orientalisant, antiquisant, purement fantasmagorique. Et c'est une poésie de la marchandise qui se montre au lieu de son prix ou de son usage.
On part maintenant pour Casablanca, au Maroc, pour parler d'une histoire d'esprit, de sorcellerie dans l'un des plus grands centres commerciaux d'Afrique. Le tout nouveau Morocco Mall serait hanté. En tout cas, la presse marocaine s'en est fait l'écho et la direction a vivement réagi. On retrouve par Skype Mehdi Medem, notre correspondant. Mehdi, c'est quand même une histoire à dormir debout.
Hein. Oui, les journaux expliquent que des employés, même du Morocco Mall, aurait démissionné à cause de ces esprits, des bruits bizarres, des bruits de chevaux auraient été entendus dans les sous-sols. Les genoux, les esprits entraient Les 350 enseignes de ce centre inauguré en grande pompe il y a à peine un mois, des fakirs, des exorcistes auraient même été vus à la fermeture des portes pour voir ce qui se passe. Bref, les 30 000 mètres carrés de ce temple de la consommation verraient quelques fantômes traîner dans les rayons, une histoire qui aurait pu être prise à la légère, mais non, pas du tout. Certains se posent des questions, est-ce que ce serait pas finalement un nouveau coup de pub? Mais ça pourrait être aussi une tentative d'écorner l'image du Morocco-Mall, qui divise ici. Certains lui reprochent sa localisation en bord de mer, quasiment sur la plage. Lors de l'inauguration aussi, il y a eu un raté, un vrai couac, une erreur même. Les directions ont jugé bon d'inviter uniquement la presse internationale, déclenchant les foudres de la presse locale. Ceci expliquant peut-être cela.
On peut dire qu'un homme moyen menant une vie normale à la campagne, dans un village, à la ville ou dans la métropole, entre forcément en contact tous les jours avec des choses, un service, des appareils que Raymond Lewis Associates a dessiné ou contribué à mettre sur pied. On peut raisonnablement affirmer que plus de 75% de la population américaine est directement affectée par notre travail au moins une fois par jour. En fait, s'il prend l'autobus, écrit une lettre, fume une cigarette, écoute une émission radiophonique, se rase, mange un sandwich ou un repas, ou encore boit un verre, prend une douche, roule en voiture, prend l'avion ou donne un baiser, l'Américain nous a trouvés sur son passage. Ainsi, en moins de 25 ans, l'industrial design, tentative hésitante et incertaine, est devenu ce que Times appelle un des phénomènes les plus remarquables de l'industrie aux USA. Cette nouvelle profession va rapidement de l'avant. On reconnaît généralement aujourd'hui que l'industrial design est un facteur aussi important que la publicité dans la réussite commerciale d'un produit, d'un service ou d'un magasin. Nombreux sont les nouveaux domaines dans lesquels l'industrial design n'a pas encore pénétré et qui auraient pourtant grand besoin de ses services. Les vastes entreprises, organisations et manufactures où dominent la laideur, l'incompétence ou les procédés archaïques. Le bruit sera notre prochain objectif. Parce que le bruit indique une mauvaise conception de la machine, donc un gaspillage d'énergie. Le bruit est coûteux, le bruit est un parasite. Il est bien des choses encore que l'on pourrait améliorer pour le plus grand confort de notre vie quotidienne.
C'est plus pareil. cher ange, on lui glisse à l'oreille.
Ah, Gudule, embrasse-moi et je te donne roi.
À Frigidaire, à Charlie Scooter, anatomixer et du dalopilo. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des belles à gâteaux. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Et des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux autrefois s'il arrive. Qu'allons se querelle, l'air lugubre, on s'en allait, en laissant la vaisselle. Maintenant, qu'est-ce que voulez-vous? La vie est si chère. On y rentre chez ta mère et on se garde tout.
Oh, Gudule.
D'un coup, ouais.
Excuse-toi.
Jamais.
Ou je reprends tout ça.
Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-golasse, mon repas limace, mon tabouret à glace et mon chasse filou. À ma tourniquette pour faire la vinaigrette, à mon ratatineur dur et mon couteau friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on la flanque dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'effrose poussière, à la cuisinière, au luguet toujours fait, ouais, au chauve-savate, au canon à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet, à mettre très vite. On reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
Plusieurs policiers blessés, des dizaines de vitrines brisées, tel est le bilan des incidents qui ont eu lieu hier après-midi dans le quartier des Grands Magasins à Paris, près de la gare Saint-Lazare. Ces dégâts sont l'œuvre d'un groupe de jeunes gens qui se réclament des brigades autonomes révolutionnaires. Devant de tels actes de vandalisme perpétrés en plein après-midi au milieu de la foule à Paris, on est tenté de dire qu'il s'agit là simplement d'actes isolés, de voyous. Mais c'est peut-être aussi un véritable phénomène de société.
Ils étaient une trentaine, garçons et filles, armés de barres de fer et de cocktails Molotov, vêtus de blousons noirs, casqués, le visage dissimulé par des foulards ou des cagoules. Ils ont cassé des vitrines, des pare-brises et provoqué un début d'incendie dans le hall d'un cinéma, devant les passants et les commerçants médusés par ces actes de vandalisme.
On a vu toute une horde de gens cagoules, armés de matraques, de pierres, qui cognaient sur la foule et qui cassaient tout sur leur passage. C'était dingue.
Une douzaine de magasins endommagés, 6 gardiens de la paix blessés, c'est le bilan de ce raid éclair des pseudo-brigades autonomes révolutionnaires. 9 casseurs interpellés qui seront vraisemblablement traduits demain en flagrant délit dans le cadre de la loi anti-casseurs. Ces scènes de vandalisme qui ont eu lieu hier à Paris sont sans doute les plus violentes depuis les incidents du 7 juin 71 au quartier Latin, date à laquelle on a vu apparaître pour la première fois dans la rue ces éléments incontrôlés qui se réclament des autonomes. Parmi eux, plusieurs tendances, violents et non violents, mais un même objectif.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a parqués dans un certain espace qui est fait de lois, qui est fait d'un consensus social, politique, etc., qu'on refuse, que par rapport à toutes ces lois, par rapport à ces niveaux de légalité, c'est sûr qu'on pratique l'offensive sur tous les fronts et qu'on ne veut plus maintenant pleurer des pétitions, les manifestations pour demander les miettes qu'on veut bien nous lâcher. On prend ce qu'on a envie de prendre aujourd'hui.
Marginaux, laissés pour compte, les autonomes refusent le système établi. Ils luttent, disent-ils, contre le pouvoir et les hausses des prix, un peu violemment, sans doute.
Vous ne pouvez plus parler de santé. Vos concurrents non plus.
Donc, on est un tas de gogos. On ne peut plus dire quoi que ce soit pour vendre nos cigarettes.
Pas tout à fait. C'est le plus grand tournant dans l'histoire de la publicité depuis l'invention des céréales. Nous avons 6 fabricants identiques qui vendent des produits identiques. On peut dire n'importe quoi. Elles sont faites comment, vos cigarettes ?
J'en sais rien.
Tu me fais honte. On plante des graines de tabac traitées contre les insectes sous le beau soleil de Caroline du Nord. On récolte, on sèche les feuilles, on les grille.
Très bien, ça.
Et puis...
on y va. Lucky Strike, on les grille.
Mais le tabac des autres fabricants est grillé aussi ?
Non, le tabac des autres fabricants est cancérigène. Celui de Lucky Strike est grillé.
Bien, messieurs, c'est pas la peine que je vous dise à quoi vous venez d'assister.
J'avoue que j'ai encore des doutes.
Messieurs, la publicité repose sur une seule chose. Le bonheur. Et le vrai bonheur, vous savez ce que c'est ? Ça peut être l'odeur d'une voiture neuve. Ou le fait de savoir qu'on n'a plus à avoir peur. C'est un panneau au bord de la route qui vous rassure, qui vous donne la paix et la confiance, qui vous dit que quoi que vous fassiez, tout ira bien. Vous n'avez rien à craindre.
We'll be right back.
Les méthodes modernes de distribution sont un phénomène économique irréversible. Il n'est certes pas question d'arrêter le progrès, mais le commerce indépendant n'en est pas pour autant condamné à disparaître, pour peu qu'il accepte d'évoluer.
Consoler Monsieur Poujade, l'histoire d'un artisan qui a réussi, le petit commerce. J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corozeau, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé, j'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris, depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours aux amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons. On touche l'assurance et les allocations, ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence, crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant, je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie, je vais sans souci, au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger. Je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en sort.
L'émission
des pierres de sang.
Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici.